Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, on va attaquer un peu de SF, mais pas trop. Un peu de film d'aventure, mais pas trop.
Alors moi, je me souviens, mais alors j'ai pas réussi à retrouver l'affiche. Vas-y, ouais. Vas-y, Steph.
Attends, mais tu me laisses même pas te présenter. Non, je suis avec Julien Dupuis.
C'est le bordel, ça commence. Mais c'est post-apocalypte.
L'inénarrable.
Post-apocalyptique. Voilà, oh là là. Regardez.
L'inénarrable Julien Dupuis. Voilà. Et on va parler d'Absolum 2022, donc.
No Escape.
De Martin Campbell. Voilà. Et tu voulais raconter en fait une
mais
anecdote.
Oui, alors j'ai pas réussi à retrouver l'affiche.
Mais c'est la jaquette, c'est sur la jaquette.
C'était sur la jaquette, parce que moi je me souviens quand c'était ressorti, l'argument de vente du film, c'était le seul film de science-fiction de l'année. Alors putain, je me dis, oh là, putain, la misère.
Ce qui était vrai en plus.
Mais oui, c'était peut-être vrai. Mais allez, je me rappelle très très bien avoir vu ce truc-là, je me dis, oh là là, c'est triste quand même.
Bon, alors techniquement, aux États-Unis non, puisqu'il y a eu cette sortie en 94, il y a eu Stargate aussi, ça, mais bon, enfin voilà.
J'aime bien Stargate.
Catastrophe. Voilà. Et alors pourquoi Absolum 2022 ? Alors,
mais j'en sais rien. Putain, pourquoi on a fait ça ?
Alors je vais te dire pourquoi.
Mais pourquoi vous écoutez ?
Il y a quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas, en fait, qui a demandé, a suggéré une fois, il y a quelques temps, dans, dans un commentaire quelque part. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est un film que j'ai pas revu depuis 25 ans. Ouais. Parce que je l'ai vu une fois à l'époque.
Moi aussi, je l'avais vu en salle.
Alors moi, pas en salle, je l'avais vu en vidéo, je crois. Ouais. Et en fait, je ne l'ai jamais revu. Et du coup, on l'a revu là pour
Et puis tu t'es dit, Dupuis, on leur refile toutes les merdes là.
Dupuis, il aime bien la SF, tu vois. Et Dupuis, il aime bien la bagarre. Dupuis, il aime bien le film d'aventure, tu vois. Donc on va faire ça avec Dupuis, quoi.
On va appeler Dupuis.
Et du coup, on l'a revu.
Et alors, t'as aimé, toi ? Qu'est-ce que t'en penses, toi,
Stéphane ? Alors, moi, j'ai un gros problème. En fait, il va être très étrange cet épisode, je pense, parce qu'en fait.
Tu t'es endormi.
Non, mais disons que Martin Campbell, c'est pas le, comment dire, mon réal préféré. Et je pense que, en fait, si Rafik nous écoute, par exemple, il nous aurait dit, mais pourquoi on fait pas le Masque de Zorro, tu vois? Parce que lui, je sais qu'il aime beaucoup. Oui, mais faut le revoir. Donc, voilà. Donc, on verra peut-être un jour. Mais, puis, trop de Martin Campbell.
Tu le Martin Campbell,
voilà. Ouais. En attendant, c'est quand même son premier vrai film d'action, en fait, et quelque part presque un galop d'essai vers les blockbusters qu'il va faire.
Et tout de suite après, il fera GoldenEye. Voilà. Et tout de suite après, il fera le Masque de Zorro. Donc, quand il fait ce film-là, en fait, il est sur la pente ascendante, on va
et
dire.
Et puis c'est presque une
ce qui est étonnant quand tu vois le film.
Voilà, une bande démo en fait pour ses capacités pour de réal après. D'action.
Exactement. Quoi. Et puis il avait fait avant parce que c'est produit le vrai truc en fait de Absolum 2022, c'est que c'est produit par Gale Ehrnard et ils s'étaient déjà rencontrés. Enfin, en tout cas, ils avaient déjà travaillé ensemble pour un téléfilm HBO.
D'accord.
Tu viens de ça, non ?
Non.
Détective Lovecraft, un truc comme ça, ça s'appelait.
Oui,
moi, je m'en souviens parce qu'il y avait des effets spéciaux de Tony Gardner avec des man in suit, tout ça.
Et en plus, on avait parlé dans Mad et tout à l'époque. À l'époque où je lisais Mad.
Ah ouais, ils en avaient pas oui, forcément, Mad. Ils en avaient parlé, c'était sorti en vidéo directement en France.
Et du coup, je l'avais maté en vidéo, effectivement.
Et du coup, il avait fait ça et tout, mais c'est vrai que c'était un mec qui n'était pas du tout encore identifié, en fait, hein, Martin Campbell.
C'était
à
pas
l'époque,
un réalisateur de blockbuster.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'était.
D'ailleurs, Absolum 2022 n'est pas un blockbuster.
C'est pas vraiment un blockbuster, mais c'est un film qui a coûté quand même un petit peu d'argent, mais qui a été plutôt habilement produit pour justement optimiser son pognon. Par exemple,
Gale Ehrnard.
Il y a Gale Ehrnard et ça fait partie des quand même des atouts du film, parce que le film a quand même quelques atouts. C'est qu'il avait été tourné en Australie, dans la jungle australienne, à une époque où ça ne se faisait absolument pas. Et ils étaient allés tourner là-bas, si mes souvenirs sont bons, pour faire des économies en fait sur le budget, parce que c'était beaucoup moins cher que d'aller tourner à Hawaï où ils tournaient à l'époque. Quoi.
Deux choses.
Oui.
Gale Ehrnard,
oui.
C'est qui ? Faut la présenter quand même, parce qui que même les gens, normalement, les cinéphiles savent qui c'est, mais quand même, tu vois.
Je sais pas.
Grande productrice.
Ouais.
Voilà.
Ex-femme à l'époque déjà de James Cameron.
Ouais, mais grande productrice.
Immense.
Qui a quand même produit quelques petits films pas très connus comme Terminator. Aliens, effectivement.
Qui sont des...
Armageddon, depuis. Parce qu'il faut toujours citer Armageddon, si on peut.
C'est surtout Hulk aussi. Hein. Elle a porté ce projet-là pendant très très longtemps, à une époque où les
films... Avec plusieurs versions différentes.
À une époque où les films de comics n'étaient pas du tout une évidence. Et y compris dans les années 90. Hein, ça fait partie des projets sur lesquels elle était attachée pendant longtemps. Et c'est vrai que Galen Erd, en plus, elle a été un petit peu dans l'ombre de Cameron, quand même, mine de rien, parce que même si elle a eu une belle carrière de productrice après son divorce et après qu'ils aient arrêté de travailler ensemble, les titres pour lesquels on se souvient d'elle, ça reste quand même les titres qu'elle a fait avec Cameron.
Après,
et
elle
c'est
a
des vrais... Juste terminer là-dessus, c'est des vrais sacré prouesse de production.
C'est-à-dire que
réussir à produire dans ces conditions-là un Aliens le retour, un Terminator et tout, ou Abyss, c'est énorme en fait. C'est énorme ce qu'elle a réussi à faire.
Il y a une vraie conjonction des talents là-dedans parce que le truc, c'est que j'allais dire, c'est vrai qu'on la connaît pour ses films avec Cameron, mais elle a beaucoup travaillé avec ses maris successifs. Hein. Mm. Elle a produit De Palma quand ils étaient ensemble L'Esprit de Cain. Elle a été avec Jonathan Hensley, qui est un scénariste et qui est devenu un réalisateur aussi, où elle est peut-être toujours avec d'ailleurs, mais en fait elle a produit ses films à lui aussi, notamment Le Punisher, hein, la seconde adaptation du Punisher au cinéma. Voilà, c'est très mauvais, mais peu importe, tu vois, elle était dessus quoi. Et en fait.
Elle ne vit plus avec lui, tu vois, je suis en train de. Voilà. Ah si, elle est encore avec lui.
Bah, voilà,
elle a quatre maris, tu te rends compte.
C'est plus stéroïde, c'est voici quoi.
Ouais.
Bref, mais justement, sortons de cette logique-là, en fait, parce que ce n'est pas la femme 2, justement, Galen Erd. C'est ça qu'il faut vraiment prendre aussi en considération. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que je pense que Cameron, vraiment, n'aurait pas pu faire Terminator de cette manière-là, cette efficacité-là, c'est malgré la qualité de son scénario,
exactement,
malgré son talent à lui, si, en fait, il n'y avait pas cette personnalité derrière, en fait, pour l'aider à produire le film et faire le truc le plus système 2 le plus efficace.
Je pense qu'il suffit de voir une interview de Galen Erd pour comprendre la nana, en fait. C'est-à-dire que tu sens que c'est une nana qui est cash, qui est ultra carrée, et qui est un peu Cameron me donne la même impression hein, d'ailleurs qui c'est des personnalités quand tu les vois t'as l'impression que leur cerveau mais il fonctionne à 500 km/h quoi mais ça file quoi c'est un truc de dingue quoi et elle en plus elle a pas de problème à avoir je crois que c'était une interview dans Variety où elle avait dit ça elle dit moi j'ai pas de problème parce qu'on m'appelle une salope quoi sur les plateaux et tout elle a ce truc elle est à la fois hyper élégante. Et ça aussi, c'est très étonnant. Enfin, quand tu vois les coulisses, notamment de ces premiers films, où elle travaille quand même dans des conditions de misère totale. Et Dieu sait, enfin, pour peu que tu connaisses un tournage, en particulier un tournage comme celui de Terminator, notamment, qui est tourné des fois dans des coins pas possibles, dégueulasses et tout. Et elle est toujours tirée à quatre épingles et tout là-dedans. Et je pense qu'elle met un point d'honneur, justement, à se présenter comme ça, alors qu'elle a dormi une heure la nuit et elle doit arriver maquillée, déjà super élégante et tout, parce que elle, ça fait partie, en fait, du personnage et du truc complètement inflexible. Et c'est une personnalité hyper forte. Et encore une fois, No Escape, comme tu le disais tout à l'heure, Absolum 2022, c'est pas un blockbuster, mais il faut reconnaître ça au film. C'est-à-dire que c'est un film qui optimise quand même ses moyens. C'est-à-dire que c'est quand même un film où tu as des villages entiers qui ont été construits par un super chef décorateur qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, qui s'appelle Alan Cameron. Et c'est pareil, si vous êtes sensible à ce genre d'aspect de la fabrication des films, ça vaut le coup quand même, Absolum 2022. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu as un sacré boulot sur la direction artistique et tout. Il n'est pas d'accord Stéphane mais au niveau de la facture même du truc et tout je ne te parle pas de direction artistique de choix artistique je te parle de travail et de quantité de boulot et puis il y a des batailles rangées tribales avec des mecs c'est des scènes qui coûtent la peau du cul et tout mais
on va un petit peu pitcher le film. Alors c'est adapté d'un livre
d'un livre que t'as lu du coup.
Non, alors moi je l'ai pas lu, mais par contre, en fait, si tu veux, je suis surtout allé vérifier quand est-ce qu'il a été écrit, parce que c'est adapté d'un livre d'un anglais qui s'appelle Richard Early. Et en gros, c'est quand même une bonne pompe de New York 97 à la base. Hein. C'est-à-dire que, en gros, il y a quand même. Alors, et puis le film commence, enfin, ouvertement comme ça. C'est-à-dire que t'as le personnage de
Ray Liotta
qui a abat Alors, on ne sait pas que c'est lui sur le moment, mais on l'apprend très vite après. Il abat son supérieur, parce que c'est un militaire, il abat son supérieur en fait, pendant
un défilé militaire.
Il se retrouve, parce qu'on est dans le futur du passé, hein, n'est-ce pas ? Puisque voilà, c'est un film qui date de 1994, mais qui t'explique que ça se passe en 2022, parce que dans le futur, ça va se passer comme ça, tu vois. Sauf que 2022, c'est dans 2 ans, donc voilà. Ou dans un an, je ne sais pas quand est-ce qu'on va publier le...
Ça se trouve, ce sera comme Absolument 2022, on sera bien attrapé.
Bien emmerdé, mais en fait, ils n'avaient pas prévu le Covid, en fait. C'est ça. Quoi. Et en fait, le personnage de Ray Liotta, qui donc passe pour un espèce de héros taciturne et anti-héros taciturne à la Snake Plissken, tu vois, se retrouve en fait dans une prison qui exploite en fait ses prisonniers pour manufacturer en fait des produits dans le vrai monde, quoi. Il est largué dans une prison qui est sur une île verrouillée, tu vois. Comme New York 97. Alors certes, ce n'est pas une île aux États-Unis, mais c'est une île quelque part dans le monde en fait verrouillée. Et en fait, avec une recréation tribale en fait, si tu veux, de la société,
par
la force des choses. Ouais. Donc ça, c'est très très influencé New York 97, très très influencé Carpenter. Le film dérive quand même au bout d'un moment de cette logique-là, parce que ça, c'est vraiment le début. C'est-à-dire que t'as une esthétique même de SF. Qui se rapproche en fait de ce que Carpenter a essayé de faire. Moi, je trouve qu'au final, le résultat, on tape un peu plus dans Highlander 2 que dans.
Tu parles du début là.
Ouais, ouais.
Moi, c'est le truc que je préfère dans le film.
Ah oui, c'est parce que t'as des kiffs de SF 80s, 90s, non ? Tu vois ? C'est aussi ça le truc.
Non, parce que aussi. Je vais rentrer un peu dans le détail là, du coup aussi. Ouais. Est-ce que c'est le moment ? Je sais pas. Mais aussi parce que.
C'est toujours le moment, Julien.
Je trouve que il y a plusieurs trucs. C'est que. Mais notamment. Alors, c'est vrai qu'il y a, un côté de moi fanboy basique. Parce qu'il y a Forward Production qui avait bossé dessus, qui était une société, je crois, qui avait fermé depuis, mais c'est les frères Skotak qui avaient ça, comme Galen Hurt, comme James Cameron, c'est des gens qui viennent de l'école de Roger Corman, d'ailleurs, et qui étaient connus pour faire des maquettes, en fait. Ils ont eu un Oscar pour Aliens 2, hein. C'est eux qui avaient fait toutes les maquettes sur la planète, enfin, de la ville... de la colonie, c'est eux qui avaient fait l'explosion atomique aussi dans T2, tout ça. Et donc,
c'est très succinct dans le film, hein. c'est très rapide. Hein. C'est
dans Absolument,
hein.
Mais il y a quand même des petites maquettes d'eux. En plus, c'est des maquettes qui sont sympas et tout. Est-ce que je fais un point maquette ?
Fais un point maquette.
Il faudrait faire un point maquette avec un petit jingle de
mais on n'a pas les moyens. Malgré le Tipeee, donc vas-y.
Allez. Je vous fais un petit point maquette. Non, mais en fait,
le faire, le bruitage à la bouche.
Et alors,
point maquette.
Voilà. Et le truc, en fait, c'est que si vous regardez, et si vous aimez les maquettes et tout, c'est assez sympa parce qu'il y a deux trucs. Il y a un train, par exemple, qui arrive au milieu d'un désert. Et il y a une petite astuce que j'aime beaucoup, c'est que pour accentuer, si tu veux, la profondeur du voyage du train, le train a été fait à deux échelles. T'as un tout petit train qui est en fond de cadre, en fait, et qui avance, qui sort du champ. Et t'imagines que, vu la tournure, en fait, des rails, il fait un demi-tour hors champ, quoi. Comme ça, il tourne et il arrive, en fait, en gros plan, en fait, à côté de la caméra. Et là, c'est un train qui a une échelle différente. Et le plan... Il est sympa, il fonctionne bien.
C'est un rajout.
C'est dynamique.
C'est tellement pas dans l'esthétique générale du film.
C'était voulu, pourtant ils l'ont fait en même temps, je crois. Hein. Peut-être, je sais pas. Et après,
Moi, je trouve que ça te détonne complètement avec le
reste
du film.
Oui, mais complètement. Mais je pense que c'est voulu, en fait, de faire un truc, de jouer le contraste, en fait.
D'accord.
Et moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et parce que c'est presque
en termes de fabrication.
C'est même un truc à la 1984, presque, tu vois, tu dirais. Il y a un côté, voilà, à la George Orwell là-dedans. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a un plan quand il arrive dans cette prison, c'est une espèce de tour avec un coucher de soleil derrière. Et c'est pareil, j'aime bien ce plan-là et tout. C'est une petite maquette, elle est vraiment, il y a des, si vous cherchez bien sur le net, il y a des quelques photos. Et il y a des petits hélicos derrière. Et petite astuce qui est sympa, en fait, c'est que les hélicos, pour ne pas avoir de câbles dans le champ et tout, en fait, c'est des tout petites maquettes qui sont collées sur une feuille blanche qui était en fond, qui faisait le ciel, tu vois. Sur cette feuille blanche était projeté le ciel. Okay.
D'accord.
Mais la projection en elle-même ne bouge pas. Mais la feuille blanche, ils peuvent la bouger par contre. Et du coup, en bougeant la feuille blanche, t'as l'impression que t'as l'hélico en fait qui bouge, alors que le ciel ne bouge pas en lui-même. Je ne sais pas si je suis clair.
Non, mais c'était clair, mais par contre...
Clair, mais super, c'est super comme
idée.
Oui,
mais moi, j'étais en train de te dire, on est en train de faire tout un truc sur 3 minutes au début
du
film.
Mais c'est pas grave, c'est sympa, ça fait partie des petits trucs. Non, parce que franchement, le film, il n'y a pas grand... En fait, je pense que le seul intérêt qu'on a à faire ce podcast aujourd'hui, c'est justement dans des petits détails comme ça. Parce que le film en lui-même, il est hyper morne.
En fait, il est très étrange, ce film, parce que, en gros, donc, il y a déjà cette ouverture qui vraiment détonne avec le reste du film.
Mais qui est plutôt une vraie... fois, moi, que j'aime bien. Par exemple, la scène dont tu as parlé avec le défilé militaire, c'est un plan hyper graphique. Ça,
ouais, mais qui est très, encore une fois, complètement étrange par rapport au reste du film. Quoi.
C'est-à-dire mais il y a une belle promesse. Quoi.
Parce que le film en soi, justement, en fait, est beaucoup plus classique dans sa narration derrière. Et l'autre truc, en fait, que j'allais dire, c'est que il y a en fait un espèce de le film en fait en soi, et je pense qu'il a été déjà pitché et produit pour ces raisons-là, avec ce budget-là, avec ce casting-là, parce que il faut aussi préciser les choses, tu vois. Donc le personnage de Ray Liotta se retrouve sur cette île et son seul but en fait c'est de s'évader. Or personne n'a jamais réussi à s'évader de cette île, donc voilà, c'est assez classique. Et ce personnage-là, en fait, ce budget-là, en fait, si tu veux, et ce casting-là et cette prod-là. Bah, je pense que ça rentrait dans certains clous et l'idée c'était de faire on vous vend du Carpenter, du Mad Max, du voilà, et c'est de l'exploitation
à une époque où encore une fois tu n'avais plus de trucs comme ça quoi.
Et pour cause parce que c'était un peu passé de mode aussi, voilà. si tu suis dans la logique des choses, c'était un peu passé de mode.
Et c'est pour ça avait été surexploité par les Italiens et tout.
Voilà, quoi. Et du coup tu te retrouves avec un espèce de film où, t'as un casting quand même plus, c'est-à-dire il faut être honnête hein, par rapport à.
Mais ça, c'est un des plaisirs du film. Hein,
voilà, Ray Liotta, c'était son galop d'essai en héros d'action, enfin,
et ça marche
héros d'action.
C'est sympa. Ça va. Ça vient, c'est un choix qui vient après, de Galen Hurd d'ailleurs, pas du tout de.
Pas du tout parti dans cette direction-là. Tu vois. Oui, mais Martin Campbell, je pense qu'il était totalement. C'est un yes man pour le coup, moi, je trouve, sur ce film, je pense. Mais moi, j'ai toujours eu tendance à penser que c'était un yes man sur tous les films qu'il a fait.
Ça lui ressemble en tout cas, c'est sûr.
Et voilà. Et ensuite, le film en soi, en fait, il est, je trouve, particulièrement... il jongle avec les tons, en fait. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est très étrange. C'est-à-dire que, par exemple, un des méchants du film, qui est Stuart Wilson, t'as l'impression que, tu vois, t'es censé... En fait, si tu veux, sans vouloir même le comparer au Bourne Mad Max, tu vois, c'est-à-dire le personnage de Mungus, quand tu fais la comparaison entre ce personnage-là, tu vois, t'as ce personnage qui se voudrait un peu dans cette lignée-là, tout en étant une espèce de bouffon. Donc du coup, t'as l'impression
un
que c'est
bouffon un peu, en plus hyper élégant, tu vois, avec des dents nickel et tout. Il
et
est
puis
bizarre,
des,
ça,
et puis bien brossé des cheveux,
ouais,
tu vois.
Ouais, il est nul.
Et qui fait des blagues tout le temps et qui est méchant mais méchant rigolard. Et du coup, t'as l'impression
qu'il essaye de faire une espèce de méchant suave au milieu de ce chaos. En fait, je pense que c'était ça l'idée.
Alors,
de base, mais
le truc, c'est que en fait, en revoyant à la revoyure, déjà moi, ce personnage me pose un problème la première fois que j'ai vu le film. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est comme si t'avais l'impression de regarder un sketch du SNL où d'un seul coup, on avait demandé à Louis C.K. de faire Humongous ou Immortan Joe, si tu veux. Donc c'est un peu ça, en fait, que ça me donne comme impression, quoi.
C'est moins savoureux.
Ouais,
tu me vends plus de rêves.
Voilà, voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, du coup, ça te détonne et ça donne pas vraiment une... C'est-à-dire que, en fait, c'est un film qui se veut quand même assez violent, mais qui finalement ne l'est pas plus que ça non plus.
Mais c'est ça qui est impressionnant, moi, je trouve, dans ce film. C'est surtout quand tu le revois aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as plus de films comme ça. Enfin, à part sur Netflix, des trucs comme ça. Mais au cinéma, en tout cas, quand les cinémas fonctionnaient encore normalement, t'avais plus de films comme ça qui sortaient. Des films avec pas mal de pognon quand même, mine de rien. Et en même temps, il n'y a pas une seule femme, par exemple, dans le film. C'est des trucs radicaux quand même, ça. Il n'y a pas un seul personnage féminin. Il faut qu'ils acceptent dans les studios, toi, de faire ça. Et puis, t'as quand même des décapitations. T'as des mecs qui sont... Il y a une flèche qui transperce deux mecs à un moment. T'as
un type qui se prend une flèche enflammée dans la gorge.
Enfin, t'as des trucs quand même, quand on les raconte comme ça, c'est relativement vénère et tout. T'as un mec qui se fait empaler aussi par une espèce de piège là dans la jungle et tout. Et je trouve que le film, il est totalement... c'est même pas
aseptisé, malgré tout.
Aseptisé, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que
c'est les années 90.
Tu regardes le truc et t'en as absolument rien à foutre, en fait. Il n'y a pas d'effet choc, il n'y a rien.
On sortait de l'ultra-violence des années 80 avec des vrais trucs très graphiques, tu vois. Et en gros, si tu veux, on gardait la même énergie, on va dire, si tu veux, de montrer ces morts-là et de les assumer. Mais en fait, en les aseptisant, et du coup, il y a pas mal. Moi, je trouve que même dans les grosses productions américaines, enfin, sans aller jusqu'à ça, c'est de la série B, hein, tu vois, voilà. Et
de luxe, quand même.
De luxe, mais c'est conçu comme de la série B. Même dans des trucs comme Demolition Man, même dans des films comme ça, il y avait beaucoup de violence, mais de la violence aseptisée. C'est-à-dire qu'on coupait la tête de. Je spoil Demolition Man, hein. On explosait la tête de Wesley Snipes, par exemple, en lui gelant le truc. Mais bon, c'est effectivement,
cartoon,
tu te dis, putain, c'est
quoi,
pas
pire,
cool de crever comme ça, tu vois, tu te dis. Mais en même temps, c'est pas Total Recall. C'est jamais des trucs, en fait, Robocop ou ce genre de points en fait hyper viscéral. En fait, il y a une approche en fait En fait, on regarde ça un peu de loin, c'est aseptisé, et il n'y a plus vraiment la viscéralité, finalement, qui était liée, en fait, à la façon dont c'était traité frontalement, en fait, dans les années 80. Quoi.
Alors,
dans des bons ou dans des mauvais films, c'est même pas une question de qualité, pour le coup, c'est vraiment une question de d'effet choc.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le truc aussi, c'est que je pense que ça vient de Martin Campbell, aussi. C'est-à-dire que le truc c'est que finalement c'est peut-être là on va pas se faire vraiment beaucoup de copains quoi mais bon c'est vraiment
voir qu'on va y avoir encore des gens qui vont vous dire mais comment vous pouvez comment est-ce que vous pouvez chier sur Absolument 22 enfin quoi.
Ouais c'est clair mais non mais je trouve que c'est un mec qui fait du boulot propre quoi tu vois je pense je sais pas par exemple sur l'utilisation de ces mouvements de grue moi je trouve à Martin Campbell bah ils sont toujours là à peu près où tu peux les attendre et puis ils sont bien raccordés et puis ils sont bien cadrés et tout mais c'est pas plus dynamique il y a rien qui dépasse en fait je trouve chez ce mec là et ça moi c'est l'impression qu'il m'a toujours donné hein, moi de GoldenEye au Masque de Zorro même si c'est meilleur par exemple moi quand même le Masque de Zorro c'est pas un film que j'adore et tout mais c'est quand même vraiment meilleur que Absolument 2022 je trouve
mais moi je vais même aller plus loin en fait je trouve qu'Absolument 2022 même si j'aime pas beaucoup le film en vrai voilà c'est dit hein, voilà jugez-moi tu vois je le préfère largement à GoldenEye ou à Casino Royale par exemple
ah ouais
ah moi c'est des films que j'exècre vraiment en fait
mais en tout cas ouais je trouve que c'est tout est un peu je sais pas c'est tout est bien poli bonjour madame je vous décapite une petite décapitation puis là, il t'emballe ça bien alors, et tout
bonjour madame mais non parce qu'il n'y a pas de madame
bah, mais... pas de madame non mais et alors il y a un autre truc qui m'a étonné dans le film il y a, tu vois j'y pense là putain, je sais pas si je devrais aborder ce sujet là dans Capture mais il y a quand même ce truc cet humour sur le personnage homo là le gros là qui est homo.
Ah.
Qui est hyper efféminé et tout. Et c'est pareil, je me suis dit, putain, c'est incroyable, tu ferais plus jamais un personnage comme ça aujourd'hui. Tu t'es endormi à ce moment-là.
Non, mais tu parles de qui, là ?
Dans Absolument 2022.
Il y a un personnage homo ?
Bah, il y a un personnage qui est hyper efféminé, là, le gros, là, qui a son espèce de plumeau, là, chez les gentils.
Ah, mais le traître ?
Ouais, bah, il est hyper. Voilà, mais tu ferais plus un personnage comme ça, ouais. C'est le traître ? Putain, je me rappelle plus du film déjà.
Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas ouvertement quelqu'un qui est homosexuel.
Non. Et c'est pas ouvertement, mais il est hyper efféminé.
Oui, mais
non,
il est efféminé tout. Comme le personnage de Associé de Bob dans. Comment s'appelle ? Dans Demolition Man, par exemple.
Demolition, ouais, c'est
oui,
ça.
Voilà. Bon, c'est, ouais, ouais, ça, c'est toi, c'est ton homophobie.
Non, c'est
la tante qui.
Non, c'est pas ça. Ah, bon. C'est que je suis étonné que, justement, dans un film aussi. Lisse,
parce que pour moi, si.
Ça passe,
admettons qu'il y ait peut-être un rapport un peu de bromance ou. Voilà, ça serait.
Tout dans le film,
ça serait
hein.
Plus avec le personnage de Kevin Dillon hein.
Ouais.
Mais qui en plus enfin parce que en fait et là en fait là c'est presque de la malhonnêteté de dire ça parce que en vrai ce personnage là il est censé représenter la pureté qu'a perdu le personnage de Ray Liotta c'est-à-dire le fait qu'il soit incapable de tuer le fait qu'il soit incapable de partir dans ces trucs là tu vois donc c'est même pas voilà mais c'est juste que oui enfin je sais pas tu vois moi j'ai l'impression que le film il se pose quasiment pas ces genres de questions, il s'en fout, il le traite pas. Alors qu'il pourrait clairement le traiter et ça pourrait carrément donner quelque chose d'intéressant, justement, dans cette recréation de la société, tu vois.
Ouais, ouais, non, mais.
Effectivement,
mais,
totalement masculine.
Mais,
tu
mais
vois
c'est juste que, justement, encore une fois, il se pose pas la question et que malgré tout, il y a ce personnage-là qui est clairement un ressort comique, voire un ressort donc, dramatique, ouais. Négatif, tu vois, sur le. Qu'il le fout.
Mais de toute façon,
c'est
pour moi, c'est à mettre dans les problématiques de ton.
Il y a une homophobie là, latente, enfin, qui se pose même pas la question, quoi. C'est juste. Là où ça me pose problème, quoi, tu vois. Si elle était assumée, si c'était rigolo et tout, ce sera une autre question, mais là, c'est juste que ça fait partie du décor, voilà.
Ouais.
Et moi, du coup, ça m'a gêné, quoi. Enfin, je me suis dit, putain,
c'est vrai qu'à cette époque-là, dans le cinéma d'action, il y avait beaucoup de blagues homophobes,
ouais, hein,
c'est-à-dire,
donc,
mais surtout par exemple dans les buddy movies ou dans ce genre de choses. Moi, je me rappelle de L'Arme Fatale 3, c'était mais blindé de blagues homophobes,
ouais.
Et tu te disais, ah bon, d'accord, alors qu'en fait, les deux premiers font même pas ça, tu vois, mais oui, enfin, après. Moi, je pense qu'en fait, il y a cette problématique aussi dans le film, quand je disais de problématique de ton et problématique de casting. C'est un bon casting,
ouais.
Mais des fois, j'ai l'impression que les acteurs ne sont pas forcément à leur place. C'est-à-dire, je vais prendre cet exemple de Lance Henriksen, qui est un acteur que j'adore, tu vois, qui est vraiment un super acteur, et qui d'un seul coup joue quelqu'un...
Qui est une espèce de sage, c'est Yoda.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Et en fait, ça marche pas vraiment, parce que lui, il est bien, il est sympa dans le film, c'est cool de le voir, c'est toujours agréable d'avoir Lance Henriksen dans un film, tu vois. Mais, en fait, t'as envie de dire, mais en fait, il a une intensité. Tu vois, je comprends qu'ils prennent Ray Liotta pour ce personnage-là, par exemple, si tu veux. Mmh. Mais Lance Henriksen, je le comprends beaucoup, beaucoup moins parce que, en fait, il n'a pas, non seulement il n'a pas cette aura de sage, en fait, si tu veux, de manière générale, dans sa carrière. Mais en plus, il a une intensité pour moi qui, en fait, si tu veux, le sort un peu de là. Quoi.
Ah ouais, tu vois,
y compris dans la façon dont il y a certains jeux sur comment gérer, par exemple, si tu veux, les règles de la société qu'ils ont imposées. C'est-à-dire qu'il y a ce type qui s'est endormi deux fois à son poste,
qui
le bannissent, tu vois, avec une mort certaine, tu vois, et d'un seul coup. En gros, si tu veux, Ray Liotta questionne le personnage de Lance Henriksen et ses règles, tu vois. Et Lance Henriksen, il le joue en fait d'une manière où, en gros, si tu veux, c'est même pas seulement, il a une radicalité dans la façon de le faire, si tu veux, qui est étonnante en fait, qui joue avec l'aspect sage qui est censé être dans le personnage, tu vois. Alors après, moi je dis ça, voilà, les gens vont me dire oui, mais attention, subtilité machin, mais en fait, le problème c'est qu'on parle de ça dans un film qui ne l'est pas justement,
ouais, qui est pas vraiment
du tout subtil,
non, c'est clair.
Donc c'est là où ça devient un peu étonnant. Il y a aussi un autre truc en fait en termes de mise en scène, c'est que il y a pas mal de scènes de jungle. Alors t'as effectivement, on en parlait au début, le tournage en Australie, ça apporte un verre et plus en fait, qui n'était pas forcément évident à cette époque-là.
Ouais, moi, je me souviens qu'à l'époque, surtout, c'était des paysages que tu ne voyais pas du tout dans le cinéma américain.
Et donc, t'as des très beaux plans larges et tout ça, etc. Et à côté de ça, en fait, donc t'as une mise en scène, on va dire, dans la jungle, de furtivité, de choses comme ça, qui, alors, pour moi, fonctionne beaucoup moins bien. Quoi. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas Predator.
pour moi, ça fonctionne avec Martin Campbell. C'est-à-dire que c'est aussi un réalisateur qui ne prend aucun risque. Et j'ai un exemple très spécifique là-dessus qui est lié justement aux scènes de jungle. C'est qu'il y a comme on est sur stéroïdes, et moi j'aime bien parler des cascadeurs et tout, mais il y a un gars qui s'appelle Kenny Betts, en fait, il n'a pas fait ses débuts, ça faisait un moment qu'il tournait et tout, mais c'est un mec qui est hyper important, en fait, dans la cascade, puisque tu sais très bien qu'il travaille
avec
Michael Bay, son réalisateur de seconde équipe et tout. Enfin bon, bref.
Tu me fais comme si je savais des choses sur le cinéma.
Non, mais c'est un mec qui est vachement intéressant parce qu'il a une vision, en fait. Et en fait, le truc, c'est qu'il a apporté un truc, par exemple, dans Absolument 2022. C'est pareil, dans la cascade, dans le domaine de la cascade, tu le voyais pas beaucoup. Qu'il y a un truc sur l'utilisation des décélérateurs, en fait, pour les chutes.
Oui.
C'est-à-dire qu'avant, grosso merdo, quand tu faisais une chute, dans l'arme fatale 2, je crois, c'est celui-là dans la chute, dans la piscine.
Non, c'est... Alors, dans la piscine, oui, c'est dans le 2.
C'est la piscine, voilà. Enfin bref, quand tu faisais une chute,
Je pensais que tu pensais à la scène du suicide.
C'est la même chose, en fait. Ou, je sais pas, moi, Darkman, par exemple, dans la chute, tu faisais une chute. Tu sautais à travers une vitre en sucre ou des trucs comme ça, avec le verre qui était fait en sucre, puis tu tombais dans les cartons qui étaient scotchés et tout. Et à partir d'Absolum 2022, alors, je peux pas vous assurer que c'est le premier film qui a utilisé ça, mais en tout cas, c'est un des premiers films qui était notable là-dessus. Ils ont utilisé un décélérateur. C'est-à-dire que le cascadeur, il a un harnais, il est relié à un câble et il tombe. Il tombe à chute libre, sauf que le câble est relié lui-même à un moteur qui est relié à un ordinateur qui va freiner, en fait, juste avant la chute fatale, qui va freiner le mec avec suffisamment de mou et de latence pour pas qu'il se fasse mal, évidemment. Quoi. Et du coup, ce qui est intéressant de ces chutes-là, alors ça se sent un peu d'ailleurs dans Absolument 2022,
parce que tu sens que le mec est câblé, en fait, dans sa position,
ça marche pas trop.
C'est-à-dire que
pour faire
une grosse distinction pour un film qui est sorti l'année d'avant, une grosse chute assez, publicisée à l'époque, c'était dans Le Fugitif, par exemple, et là, c'est clairement mannequin, en fait. Vu la chute que c'est aussi, c'est quand même hyper compliqué d'envoyer un gars dans le décor avec ça, quoi.
Mais avec le décélérateur, voilà. Ils auraient
pu. Ceci étant dit, c'est une scène qui renvoie aussi à Predator dans Absolument 2022. Et pour le coup, là, c'était une vraie chute, il me semble.
Évidemment.
Et ça se sent, tu vois, pour le coup, c'est vraiment.
Et le truc, en fait, qui est. Donc, ça, il y avait ce truc-là qui était. Qui est intéressant parce que si tu veux, tu n'as plus le même rapport au filmage qu'auparavant. Et là, d'autant moins, et ça, c'est une idée apparemment de Kim Betts. Ils avaient foutu aussi un décélérateur pour le cadreur caméra.
Ah oui.
Donc, c'est-à-dire que la caméra suivait le mec en même temps qu'il chutait, en fait, dans le truc. C'est vachement intéressant. Ouais. T'imagines le plan de fou que ça donne.
La scène en soi est plutôt pas mal.
Je me souvenais de ça, en fait, si tu veux, quand j'ai vu le truc, j'ai revu le film, j'ai revu ou j'ai relu les articles, en fait, que j'avais lu à l'époque sur le machin comme ça. Et je me suis dit, mais le plan, il est si impressionnant que ça, en fait, la caméra et tout. Et en fait, il est dans le film, mais il est complètement saucissonné, il est complètement charcuté.
Bien sûr. Bah oui, mais
et t'as l'impression qu'en fait, c'est là où moi j'ai un problème avec Campbell, c'est que t'as l'impression qu'il en a un peu honte, en fait, de ce plan. C'est-à-dire que je pense qu'il l'aurait laissé in extenso. Lui, sa réflexion, enfin c'est comme ça moi que je l'appréhende, hein, c'est de se dire j'ai un plan qui va tellement sortir du lot à l'intérieur du truc, comment je raccroche les wagons en fait derrière. C'est comme si ma mise en scène, le truc avec Martin Campbell, ce que j'arrive pas à m'ôter de l'esprit, c'est que ça fait partie de ces réalisateurs, ces vrais réalisateurs hollywoodiens qui se disent une bonne mise en scène ça ne se voit pas, tu ne sens pas le mouvement de caméra, tu ne sens pas le truc et tout, qui est pour moi une théorie extrêmement discutable à plein de niveaux. C'est-à-dire moi, je pense que dans À toute épreuve, le côté hyper jouissif du plan séquence, c'est parce que tu sens que c'est un putain de plan séquence, c'est que tu sens que tu vis le truc en même temps et que tu sens qu'il y a une maestria de la caméra en même temps que la maestria de la chorégraphie, de la baston et tout. Et pareil chez McTee, tu vois, je pense que le fait que tu sentes que la caméra bouge avec ce dynamisme-là et que tu es ce raccord-là, même indirectement, fait que toi-même, spectateur, tu participes à la dynamique de l'action et tout. Et là, dans Absolument 2022, je trouve que ça fait partie des moments où il loupe le coche. C'est-à-dire que tu as ce mouvement de grue qui est sympa quand il arrive au bord du précipice et puis tu as le mouvement de grue qui dépasse la doublure, parce que c'est pareil, Lota qui tourne à ce moment-là, mais c'est son personnage, et qui te fait vivre, qui te fait sentir la profondeur en fait, de la chute potentielle, par exemple. Mais il va pas assez jusqu'au bout, notamment sur ce truc de la chute.
Mais c'est pour ça qu'il est parfait pour, il est parfait pour faire des James Bond, tu vois, quelque part, parce que c'est tout le problème. C'est-à-dire que le truc, c'est que
après ça, c'est le problème d'Absolument 2022.
Ce dont tu parles en fait par rapport à comment dire à l'absence de visibilité de la mise en scène, on va dire, tu vois, c'est un courant de pensée à Hollywood dans le cinéma d'action.
Ça a toujours été comme ça. Voilà, c'est depuis l'âge d'or hollywoodien.
Mais le problème en fait, c'est que en fait, c'est un courant de pensée qui dans lesquels tu peux englober finalement tout et n'importe quoi en prétextant que c'est le cas. C'est-à-dire que par exemple tu peux englober là-dedans French Connection si tu veux, sauf qu'en fait c'est pas vrai.
Bah
tu
non. Vois sauf qu'à l'époque les gens ils le sentaient que c'était pas
tu peux englober par exemple Massacre à la tronçonneuse où les gens ont encore une espèce de persuasion que c'est un film documentaire alors qu'en fait le film est ultra stylisé. Donc en fait il y a beaucoup de choses
mais
comme ça.
Mais je pense que les films documentaires justement tu sens la mise en scène et tu sens qu'il y a quelqu'un qui est présent sur la tournée. Je pense que la mise en scène invisible elle est au contraire avec un travelling qui est hyper léché.
La réelle problématique.
Pas de problème de points et tout.
La réelle problématique de ces mises en scène là, en vrai, c'est que ça a tendance à tout aplanir.
Bah voilà.
Et voilà. Et du coup.
Et on revient sur notre truc des décapitations bien emballées, voilà, une flèche dans la bouche qui te fait ni chaud ni froid. Quoi.
Voilà. Ce qui donc, en fait, voilà. Donc en plus, un film, moi je trouve assez long finalement pour ce que c'est. Ça dure presque 2 heures, plus, tu vois. Avec, je trouve, des tonalités. C'est-à-dire que par exemple, il y a. Comment il s'appelle ce personnage de gardien de prison là qui est, interprété par Michael Lerner. Il a même pas de nom, tu vois. Apparemment, je suis en train de regarder sur IMDb. C'est le gardien, tu vois. C'est un personnage qui est là au début. Il leur sert à la fin. Et en fait, au milieu, il est dans sa grotte en train de regarder, tu vois, les choses, quoi. Donc, fondamentalement, c'est un peu un problème de narration aussi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tu te retrouves à. En fait, tu te poses pas ces genres de questions parce que justement, la mise en scène a plani totalement ce genre de logique. Tu parlais aussi du production design, tu vois.
Ouais.
Mais avec, pour moi, justement, cette problématique-là, c'est que, en fait, ce production design-là, le résultat, au final, il est quand même beaucoup dans l'air du temps. C'est-à-dire que, pour moi, il préfigure avec un an d'avance, je vais te faire de la peine, Julien, Waterworld.
Ah ouais, mais ça, c'est pas pareil. Moi, je pense que justement, moi, j'espère qu'un jour, tu me laisseras faire un story sur Waterworld, mais je pense, et je veux pas épiloguer du coup sur Waterworld, mais je pense que justement, dans Waterworld, t'as et une appréhension de la mise en scène et une volonté d'ajouter un grain de folie dans le film mais que t'as absolument pas jamais dans Absolument 2022. Et je pense aussi que t'as une cohérence dans la direction artistique et aussi une certaine forme de radicalité que tu n'as pas non plus dans Absolument 2022.
Par exemple, c'est discutable, mais par contre moi j'en maintiens vraiment en fait sur la façon dont les mecs en fait ils gèrent les recréations.
On va faire Waterworld, on fera la bagarre avec Steph.
Oui, parce que alors, moi j'aime pas du tout Waterworld. Et c'était une énorme déception à l'époque.
Belle surprise.
Alors que j'aime beaucoup certains films de Kevin Reynolds, par ailleurs. Revenons sur Absolument 2022.
Oh, on en a marre, putain, on en a trop parlé.
Justement, en fait, ce point spécifique, en fait, parce que t'en as parlé au début,
le post-apo.
Du production design, de la façon de gérer, en fait, si tu veux, les tribus et de recréer les sociétés tribales, si tu veux, il y a quand même une problématique. Alors, certes, on est en 2022 dans le film, certes, c'est dans le futur, etc., etc., mais enfin, a-t-on vraiment besoin d'avoir des mecs avec des petits soupules là
Tu sais que ça c'est un autre truc, je parlais d'homophobie latente
en couleur praline
alors justement Il y a un autre truc
tu
aussi.
Je trouve que ça, c'est lié à l'homophobie.
Et bah, totalement, parce que, en fait, en regardant, mais pas directement dans le film, hein, mais justement en me renseignant et en préparant l'émission, parce que moi, je prépare l'émission, monsieur, je me suis rendu compte qu'Alan Cameron et la nana qui a fait les costumes, dont le nom m'échappe, pour eux, cette peuplade-là dont tu parles là, avec les soupules et tout, ils sont aussi maquillés comme des femmes. Certains ont des plastrons avec des seins qui sont reproduits. Et pour eux, en fait, c'était plus ou moins une espèce de communauté techno-efféminée, en fait, à l'intérieur du truc. Sauf que c'est pas traité.
Ben non.
C'est pas assumé. Et du coup, t'as une espèce de truc qui est latent, qui est plutôt là, qui est aussi utilisé comme une espèce de... C'est là où le côté homo l'imagerie homo me gêne, c'est que facilité, soit pour rigoler l'homosexualité dans ces films-là, soit pour te dire ils sont négatifs.
Mais les costumes, en fait, c'est Norma Morisseau, qui est la costume designer de Mad Max. Hein.
Oui.
Sauf que bon, le truc, c'est que si tu veux, je pense pas que ça soit une question d'homophobie latente, justement. Mad Max, pour le coup, si tu veux, c'était totalement assumé, totalement traité.
Ça, c'est parce que c'est un groupuscule à l'intérieur du truc et que c'est pas assumé, que c'est pas machin. C'est elle qui a fait venir le truc. Ouais.
Cette approche-là, à la base. Voilà, ouais. C'est ça, d'accord. Oui, parce que ça me paraîtrait quand même bizarre par rapport à quand tu vois la façon dont c'est traité dans Mad Max, justement, et la façon dont c'est traité dans le film. Mais là, après, c'est une question de traitement, quoi. Donc voilà, donc Absolum 2022, finalement, on en parle, on avait des choses à dire, mais c'était quand même un peu un coup pour rien, quoi, il faut être honnête.
Pour dire la vérité même aux gens, on a failli ne pas maintenir le podcast une fois qu'on a revu le film.
Une fois qu'on a revu le film, quoi.
Mais comme vous le voyez, comme je l'espère, ça a été le cas, on a quand même raconté quelques trucs autour de ça.
Voilà.
Mais vous savez, j'ai gratté, hein, putain, j'ai cherché Kenny Bates, tout ça.
Aujourd'hui, le film est quand même relativement invisible si on n'est pas équipé, enfin bon, tout le monde est équipé en DVD, j'ai envie de dire, mais en fait, si c'est vraiment sur le DVD.
Il y a eu un Blu-ray, non ?
Non, je crois que c'est un Blu-ray allemand.
Ah, c'est allemand.
Et voilà. Et
les fameux Blu-ray allemands.
Voilà, les Blu-ray allemands, parce qu'en Allemagne, c'est un grand hit, comme David Hasselhoff, quoi. Tu vois, voilà. Et en fait. Mais c'est surtout qu'il est même pas visible sur les plateformes de streaming, pardon.
Franchement, c'est un film. Ça a beau avoir été le seul film de science-fiction de l'année de sortir en vidéo. C'est quand même un film qui a été complètement oublié et tout, quoi.
Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de. En fait, si tu veux, même si le réalisateur a fait quelques films d'action, on va dire, derrière.
Ouais, mais même lui, enfin, je veux dire, Martin Campbell, il a eu sa vague de fans jusqu'à Casino Royale, j'ai envie de dire. Et puis après, ça y est, ça a redégringolé. Je veux dire,
lanterne.
Le Foreigner, là, le truc qu'il avait fait avec Jackie Chan et tout.
Pas
quoi,
vu ça,
mais. Laisse tomber, quoi. Moi, je l'ai vu. Hein,
Green Lantern.
Green Lantern.
Green Lantern,
Green Lantern, bon,
non, mais c'est nul. Mais c'est un film qui reste parce que l'autre, il se fout de la gueule de son propre film, quoi. Comment il s'appelle, Ryan Reynolds.
Mais c'est pareil. Moi, je trouve que Green Lantern, c'est là où on revient sur le pouvoir d'aplanissement, en fait, de Martin Campbell. C'est tout le monde s'est foutu de la gueule de Green Lantern en disant, ouais, machin, c'est ridicule et tout. Mais moi, je trouve que c'est même pas ridicule. C'est pas un film qui me fait rire, par exemple Green Lantern, parce que justement il a cette faculté, Martin Campbell, à tout rendre insipide, et que finalement, même si c'est à des mecs qui font des duels, ou à un moment il y en a un qui fait apparaître un minigun, et puis t'as des aliens pas possibles dans les designs et tout, tout est plat, tout est morne.
Bah parce que c'est pas filmé comme ce que ça devrait être filmé, c'est-à-dire du cartoon, voilà. Et de l'humour, tu
exactement.
Vois, pour montrer le côté délirant, quoi.
Nul, ce mec.
Voilà.
C'est là-dessus. Moi, j'ai envie de finir là-dessus.
Graphique, si tu nous entends. Tu
mais vois. Non, mais il faudrait que tu fasses un masque de Zorro. C'est quand même mieux, les Zorro et tout. T'as James Horner, c'est sympa.
Il paraît que le deuxième, moi, j'ai pas vu le deuxième Zorro.
Ça, c'est très problématique, par contre.
Merci, Julien.
Mais merci.
Merci Alain, merci à la technique.
Merci Alain.
Voilà. Merci aux auditeurs, merci aux tipeurs pour nous soutenir. Toujours la même adresse, tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur les endroits où on écoute des podcasts, hein, finalement, en France. Voilà, donc Deezer, Spotify,
SoundCloud.
On est aussi sur YouTube, on est sur SoundCloud, ouais. On a un petit compte. Apple Podcast, Google Podcast. Je suis sûr qu'Alain, il va nous en rajouter des pelletés à chaque fois, parce qu'il aime bien m'emmerder à rajouter des titres. Des
Capture est sur Instagram. Moi aussi, Marge, j'ai toujours pas compris comment fonctionne Instagram.
Je
vois qu'on m'explique quand même.
Tu vas faire ta première story sur Instagram, je vais t'aider. Tu vas mettre ton chat comme moi. Moi, je mets souvent des stories de mon chat.
J'ai vu ça, je me suis dit, ça fait pas très stéroïde quand même ça.
C'est pas grave, j'aime mon chat, je l'aime, j'assume mon côté sensible. Voilà, et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre film. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sera une surprise.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.